En 2013-2014, j'ai suivi de loin la naissance d'un truc qui s'appelait l'Internet interespèces. Bon, c'était un projet qui reposait sur un principe simple. Après l'Internet reliant les ordinateurs, après celui reliant les objets, il fallait créer un Internet reliant les espèces. Enfin, reliant surtout les humains aux autres espèces, parce que faire en sorte qu'un cachalot puisse discuter avec une fourmi, c'était pas forcément l'urgence. En gros, l'idée qui présidait à Internet interespèces, c'était d'utiliser la technologie pour faciliter la communication entre les espèces. C'était que les humains ne soient plus les seuls sur Internet. Dit comme ça, ça pouvait paraître un peu dingo. Mais l'attelage d'humains à l'initiative du projet lui donnait un peu de crédibilité. On y trouvait Diana Reiss, une chercheuse reconnue en sciences cognitives, spécialiste des dauphins, Vin Cerf, un des pères fondateurs de l'Internet récompensé du prix Turing en 2004, Neil Gershenfeld, qui est un chercheur super renommé et à l'initiative des Fab Labs, et Peter Gabriel, le musicien. Alors, qu'est-ce que Peter Gabriel venait faire dans cette histoire? J'ai découvert à cette occasion qu'il s'intéressait depuis longtemps aux animaux et il avait même entraîné des bonobos à l'accompagner au piano. J'ai écouté, il faut imaginer un bonobo face au clavier, on lui fait écouter une nappe musicale et il improvise, ou peut-être pas, enfin on peut pas savoir. Je ferais pas mieux. Pendant quelques temps, j'ai suivi l'Internet interespèces de loin. Mais j'ai très vite eu l'impression que le truc était comme mis en sommeil. Je me suis donc intéressé à une autre discipline qu'on appelle l'interface animal-machine. Alors c'est une discipline qui consiste à créer des outils techno qui permettent aux animaux d'interagir avec des ordinateurs, par exemple des maisons intelligentes ou des jouets interactifs pour éléphants. Ça me semblait un peu plus sérieux que l'Internet interespèces, même si les buts ne sont pas forcément si éloignés. Par exemple, des chercheurs de Malmö, en Suède, essaient d'inventer des jeux qui amusent autant les chats que les humains. Alors des jeux évidemment plus élaborés techniquement qu'une pelote de laine ou un bouchon de liège. Et ça, on pourrait considérer que ça relève plus ou moins de la communication interespèces. Bref. J'en étais là quand, à la fin de l'été, mon intérêt pour l'Internet interespèces a été relancé de manière tout à fait inattendue. Dans la campagne mâconnaise, sous les arbres de la manufacture d'idées, j'assistais à une conférence d'un artiste argentin du nom de Tomás Saraceno. Alors, il est assez connu, Tomás Saraceno, pour son travail avec les araignées en bordure de l'art et de la science. Fin 2018, début 2019, il a fait une exposition au Palais de Tokyo, à Paris, qui a fait un peu parler d'elle parce que s'y mêlaient des œuvres plastiques, architecturales, avec des toiles d'araignées, et que c'était très beau. Et voici donc que, pendant la conférence sous les arbres, Tomás Saraceno se met à parler de l'Internet interespèces, le truc auquel je m'étais intéressé il y a des années, dont je pensais qu'il avait disparu dans les limbes, et qui restait dans mon esprit comme une sorte de blague. Eh ben, pas du tout. Tomás Saraceno a été invité à la dernière session, en juillet. L'Internet interespèces est donc vivant, plus vivant que jamais. Alors là, j'ai sauté sur l'occasion. Pouvoir discuter avec quelqu'un qui a participé à ce truc, qui puisse raconter ce qui s'y fait, c'est un miracle. J'ai donc alpagué Tomás, je l'ai traîné au fond du parc et lui ai demandé de me raconter ce qu'il avait entendu là-bas. Évidemment, la première question que je lui ai posée, c'est « Alors, comment ils vous ont contacté? Ils vous ont dit quoi? C'était comment ?» Un peu comme s'il avait assisté au dernier repas du Christ. Et là, Tomás est remonté loin en arrière. Manifestement, il voulait faire durer le suspense.
Ces 10 dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec le MIT, avec Marcus Buller et son labo. Nous avons fait des recherches sur les toiles d'araignées.
Ok, donc la connexion, c'est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, un lieu important dans la vie scientifique américaine et mondiale, mais aussi un lieu phare dans cette histoire de l'Internet interespèces. Parce que Neil Gershenfeld, un des 4 fondateurs, il y a un laboratoire. Alors j'imagine que c'est comme ça que le lien s'est fait. Mais reste à savoir comment Tomás, qui est artiste, je le rappelle, s'est retrouvé à travailler avec le MIT.
Je m'intéresse depuis longtemps à la géométrie des toiles d'araignées complexes. Il y a des toiles d'araignées qui sont en gros bidimensionnelles et d'autres qui sont tridimensionnelles. Celles-ci sont très complexes. Quand je vivais à Francfort, j'ai contacté le musée Seckenberg et l'arachnologue Peter Jaeger. Et je lui ai demandé s'il avait déjà réussi à modéliser ces toiles extrêmement complexes. Ça m'intéressait parce qu'à l'époque, je lisais plein d'articles d'astrophysique. Et je voyais une analogie entre les réseaux cosmiques apparus après le Big Bang, leur organisation tridimensionnelle et les toiles d'araignées. Et je me disais, ok, donc dans chaque coin de notre maison, nous avons des galaxies. Il faudrait peut-être qu'on se mette à les regarder. Mais j'ai constaté que personne n'avait réussi jusque-là à modéliser précisément une toile d'araignée. Personne au monde.
Incroyable ça. À l'heure où on modélise tout, où on essaye de faire entrer tout le réel dans les ordinateurs, personne n'avait pensé, ou réussi, à numériser des toiles d'araignées. Peut-être qu'il faut être un peu dingue, comme le sont les artistes, no offense, hein, pour avoir une idée pareille. Et donc, il s'y est pris comment, Thomas, pour modéliser des toiles d'araignées ?
J'avoue que ça m'a obsédé. Comment faire ça ? On a essayé l'imagerie par résonance magnétique et des machines qui font de la tomographie dans divers hôpitaux. Puis, on a pris contact avec des arachnologues et des groupes de recherche pour savoir s'il existait un outil qui permette de rendre visible et de mesurer ces toiles. Mais aucune machine n'était capable de le faire. Vous savez, quand vous faites de l'imagerie cérébrale, la meilleure résolution que vous obtenez est de 0,6 mm. Or, la soie dont est faite une toile d'araignée mesure 0,001 millimètre de diamètre. C'est beaucoup plus fin. Alors, on a essayé de projeter en spray différents liquides pour épaissir les fils et voir si les différentes méthodes d'imagerie fonctionnaient. Mais ça ne marchait jamais. Et donc, j'ai pris contact avec l'Institut de photogrammétrie de l'Université technique de Darmstadt. Eux ont des outils qui peuvent, à partir de photos, reconstruire des représentations tridimensionnelles. Mais ils ne savaient pas non plus comment le faire avec des toiles d'araignées. Et un jour, dans mon studio, j'ai eu une idée toute simple. Si à la place d'un pointeur laser, on utilisait un balayage laser pour illuminer la toile, on pourrait utiliser deux caméras, les déplacer millimètre après millimètre, et ça pourrait marcher. On pourrait obtenir la même chose qu'avec un scanner, chaque point en trois dimensions.
Bon, j'avoue que l'énumération des différentes techniques d'imagerie m'a laissé un peu perplexe. Parce que je ne suis pas sûr d'être tout à fait au point sur la différence entre le scanner, la tomographie, la photogrammétrie et le balayage laser. Mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit essentiel dans notre histoire. Donc là, j'interromps Thomas pour lui poser une question un peu conne, mais qui a l'avantage de me ramener dans mon champ de compétences. Et où il les a trouvées, ces toiles complexes qu'il avait tant envie de modéliser ? Est-ce que c'est celle de ses propres araignées ?
Oui. À ce moment-là, Peter, l'arachnologue de Seckenberg, a proposé qu'on modélise la toile d'une veuve noire, ce que j'ai trouvé très intéressant. Là encore, ça a été un long processus. Parce qu'au début, l'araignée était dans une sorte de boîte en plexiglas. Mais le plexiglas interférait avec le laser. On devait baisser le niveau de lumière. Bref, ça nous a pris 2 ans pour trouver la bonne méthode. Alors on a utilisé un cadre de carbone très fin. Mais oui, on a fini par réussir à numériser la toile de la veuve noire.
Là, je me demande si Thomas ne fait pas un peu exprès de jouer avec mon imaginaire. Avec ses copains-là, ils auraient pu choisir de numériser la toile d'une araignée quelconque. Celle, par exemple, qu'on trouve dans les greniers à la campagne. Eh ben non! Ils choisissent une veuve noire, évidemment.
Cette araignée tristement célèbre est présente sur presque tous les continents et doit son nom à sa propension à tuer et à dévorer son partenaire après l'accouplement. Elle est équipée d'un venin neurotoxique mortel. Elle est reconnaissable au dessin en forme de sablier rouge qu'elle arbore sur l'abdomen. On estime que son venin est 15 fois plus puissant que celui de certains crotales. Mais comme elle en injecte moins, les hommes peuvent survivre à sa morsure. Rien d'étonnant à ce qu'elle passe pour une femme fatale.
Ouais, bon, voilà ce que c'était qu'un documentaire animalier du National Geographic avant MeToo. Bref, les résultats des travaux de Thomas et Peter Yeager ont été publiés dans plein d'articles scientifiques et Thomas a été invité à des congrès d'arachnologie. Alors ça a attiré l'attention des chercheurs qui travaillent sur le comportement animal à l'Institut Max Planck en Allemagne et aussi du MIT. Voilà le lien. Mais avant qu'on en arrive là, il faut éclaircir une chose. Même si je suis assez admiratif de ce qui est manifestement un exploit technique, je ne perçois pas l'intérêt scientifique d'avoir la représentation en 3D d'une toile de veuve noire. Donc, très respectueusement, je pose la question à Thomas. En quoi ce travail permet-il de faire avancer la connaissance des araignées ?
Quand vous allez dans n'importe quel musée d'histoire naturelle et que vous demandez à voir la collection d'araignées, on vous montre toujours l'animal. Mais il n'y a pas de collection de toiles d'araignées, ça n'existe pas, nulle part au monde. Alors même qu'on peut considérer que la toile fait partie du corps de l'araignée et qu'il est impossible de séparer le corps de l'animal de son corps étendu ou de sa cognition étendue, qui réside dans la toile. Une araignée qui se trouve dans un lieu où elle ne peut pas tisser de toile meurt de faim parce qu'elle est incapable de sentir ce qu'elle peut manger. Elle doit tisser sa toile pour sentir ce qu'elle peut manger. Cet appareil sensoriel qu'est la toile fait donc partie de son corps.
C'est très beau, hein, cette idée que la toile prolonge, du point de vue sensitif et cognitif, le corps de l'araignée. Et ça rend évident l'intérêt de la modélisation. En modélisant la toile, Thomas prolonge un travail de taxinomie, il intègre la toile dans la description de l'animal et il ouvre des possibilités pour mieux décrire son fonctionnement. C'est passionnant. Mais j'aimerais qu'on en vienne à notre histoire d'Internet interespèces, là. Thomas m'a dit au tout début que le lien s'était fait par le MIT et Marcus Buller. Or, quand je suis allé voir qui était ce Marcus Buller, j'ai vu qu'il dirigeait au MIT le labo de mécanique moléculaire et atomique. Alors là, je vois pas très bien le rapport avec les toiles d'araignée.
C'est un ingénieur qui s'intéresse aux propriétés émergentes de la matière à chaque échelle, depuis l'infiniment petit. Le code génétique de la soie dont est faite la toile est une chaîne très longue, BBBBC, etc. Et l'humain n'a jamais réussi à reproduire cette matière. Beaucoup de labos y travaillent parce que la résistance de cette soie est supérieure à tous les matériaux synthétiques que nous n'avons jamais créés.
Là, j'interromps Thomas parce que me vient à l'esprit, évidemment, Spider-Man et l'extraordinaire résistance de la soie qui lui donne toute sa puissance.
L'araignée, elle connaît très bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif. Il a puissant radio.
Et donc je dis à Thomas d'un air docte, ah bah ouais, bien sûr, Spider-Man. Là, il fait juste un petit sourire compatissant pour le débile de journaliste qu'il a en face de lui et reprend.
Exactement. Et donc, il avait beaucoup travaillé à l'échelle génétique, avait un peu progressé avec les toiles en deux dimensions, les toiles orbiculaires, les plus classiques, mais jamais dans la composition en trois dimensions.
Ok, très bien. Là, je vois le lien. Mais j'aimerais vraiment qu'on en vienne à l'Internet interespèces. Et je demande à Thomas, bon, et donc, l'Internet interespèces. Mais lui, imperturbable, il continue son histoire.
Le problème, c'était que notre méthode était assez lente. Il fallait prendre une photo après l'autre, etc. Donc on a ouvert un petit labo au MIT pour optimiser le balayage. Et on a réussi à numériser différents types de toiles. Et sur cette base, Marcus a pu commencer à analyser comment réagit la matière quand on exerce une pression à un endroit ou à un autre de la toile. Mais ce qui était le plus intéressant, je pense, est ce qui concerne les vibrations de la toile. On a commencé à travailler avec Peggy Hill, une scientifique qui a inventé la biotrémologie, une discipline qui s'intéresse à toutes les communications animales qui passent par les vibrations d'une matière plus dense que l'air. Des feuilles, de l'herbe, un bâton. C'est tout un champ qui n'est pas très étudié. Et aussi, on s'est mis à faire beaucoup de jam sessions. C'est-à-dire qu'on a invité des musiciens pour essayer de communiquer avec les toiles d'araignée par la musique. Le but, c'est de créer une sorte de groupe de musique, avec des percussions, un saxophone, une guitare et l'araignée qui joue sur la toile.
Ok, là, ça devient vraiment bizarre. Donc, Thomas, il fait écouter de la musique à des araignées pour voir comment elles réagissent aux vibrations. Et en attendant qu'elles jouent à leur tour. Évidemment, ça m'intrigue. Et elles sont sensibles à ça, donc, les araignées ?
Bon, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'observer quel type de vibrations résonnent dans le monde de l'araignée, pour savoir si on pourrait jouer un concert ensemble. Donc, on a invité beaucoup de musiciens au fil des années. Mais ils doivent oublier leur manière habituelle de jouer, parce que les araignées restent silencieuses et ne s'intéressent pas du tout à la manière dont les humains jouent de la musique.
C'est merveilleux, ça. L'impassibilité de l'araignée face aux vibrations de la musique humaine. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue récemment avec un type extraordinaire, qui s'appelle Bruno Moulia et qui dirige à Clermont-Ferrand un laboratoire de biomécanique des plantes. Un de ses objets, à Bruno Moulia, c'est de comprendre à quoi réagissent les arbres, comment ils réagissent, bref, ce qu'ils sentent. Alors moi, je savais que certaines espèces d'arbres, par exemple, pouvaient sécréter des substances qui les protègent d'agresseurs, comme les acacias africains qui sécrètent du tanin quand les chèvres mangent trop leurs feuilles, parce que les chèvres, elles aiment pas le tanin et elles arrêtent de brouter les acacias quand il y a trop de tanin qui se dégage. Mais en discutant avec Bruno, j'ai découvert que ça allait bien au-delà. Par exemple, avec son équipe, il a montré que les arbres sont capables de distinguer les vents. Ils ne réagissent pas de la même manière à des vents qui leur sont habituels ou inhabituels. Les arbres réagissent à des couleurs aussi, ce qui fait qu'on peut dire que d'une certaine manière, les arbres voient. Mais ce qui m'a frappé, c'est un truc que Bruno a dit au fil de la discussion, presque en passant, alors que c'est abyssal. Il a dit en gros, bon, autant que j'ai pu le remarquer, nous, les humains, nous n'intéressons pas beaucoup les arbres. La manière dont on est n'entre pas beaucoup dans leur champ de sensibilité. Ils doivent donc ne pas percevoir grand-chose de nous. Alors ça, je trouve ça très beau. Que les arbres n'en aient rien à foutre de nous, alors même qu'ils perçoivent plein de choses, y compris des choses très fines. Alors on peut dire que peut-être ils devraient s'intéresser plus à nous parce qu'on est un danger pour eux. Mais comme de toute façon, ils ne peuvent pas se barrer en courant comme les animaux, peut-être il vaut mieux qu'ils ne nous voient pas venir. Bref, quand j'entends Thomas dire que si les musiciens jouent leur musique habituelle, les araignées s'en foutent, je trouve ça merveilleux. En même temps, j'imagine qu'avec les musiciens, Thomas a fini par trouver des moyens de les faire réagir, ces araignées.
Evan Siporin du MIT est venu une fois avec une clarinette. Pendant 2 heures, il a essayé de jouer sur différentes tonalités, différentes compositions. Mais l'araignée restait accrochée à sa toile sans rien faire. Et à un moment, il a posé sa clarinette sur la table. Et l'araignée a adoré cette vibration. Donc il s'est mis à racler sa clarinette sur la table. Parce que ça faisait réagir l'araignée. C'est toujours un défi pour interagir avec des non-humains. Il nous faut des connaissances et des compétences différentes de celles que nous développons habituellement.
Ouais, cela dit, j'ai l'impression que parfois, communiquer avec certains humains demande une adaptation assez similaire à celle du clarinettiste qui arrête de jouer un morceau pour racler la table. Ça m'est souvent arrivé de sortir d'interviews avec des hommes ou des femmes politiques, par exemple, en me demandant ce qu'il fallait comme compétence particulière et comme connaissance particulière pour entrer en communication avec ces gens. Enfin, je veux dire, la communication intra-espèce, elle peut aussi être compliquée parfois. Mais passons. Je suis donc allé écouter quelques jam sessions organisées par Thomas, en tout cas celles qui sont disponibles en ligne, et bon, faut reconnaître que ça donne des trucs assez étonnants. Avec ça, j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu plus de ce qui m'intéresse, la communication entre les espèces et le rôle que peuvent y tenir les machines. Alors, j'y reviens et je demande à Thomas ce qu'il est capable de faire avec ces machines.
On est donc capable de donner une représentation numérique d'une toile. On peut en donner une représentation par réalité virtuelle, et grâce au programme que Marcus développe, on est capable d'agir sur chaque fil de la toile et de voir comment la place de l'araignée sur la toile est reliée à la tension du fil.
Ok, mais pourquoi c'est important de pouvoir modéliser au fil près ? Et pourquoi pouvoir mesurer la tension du fil permet d'apprendre sur le comportement des araignées ?
Il faut que vous imaginiez par exemple que quand l'araignée n'a pas tellement faim, parce qu'elle a beaucoup mangé, elle libère une partie de la toile. Les fils de la toile se relâchent, ce qui fait qu'un tout petit moustique ne sera pas détecté. Mais si elle en a besoin, elle va tendre les fils de sa toile un peu comme les cordes d'une guitare, jusqu'au moment où elle sentira même un tout petit moustique. On retrouve la même idée chez nous humains. Notre niveau de sensibilité correspond à une tension. Tension des nerfs, du cerveau, une sorte de concentration. Vous savez bien, quand vous êtes stressé ou apeuré, vous sentez plus de choses. Eh bien, il faut imaginer que le système nerveux des araignées s'étend dans sa toile et qu'elle régule la tension de la toile en fonction de ce qu'elle veut ressentir.
Dingue. Non seulement la sensibilité de l'araignée s'étend à sa toile, ok, mais elle peut régler cette sensibilité. Mais là, on en reste à la connaissance de l'araignée en tant qu'elle-même. Or, dans la communication interespèce, il y a quand même l'idée de communication. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si un outil comme a développé Thomas, un outil qui peut mesurer la vibration, permet de mieux comprendre comment les araignées communiquent entre elles. Ce serait déjà un premier pas.
Il y a toutes sortes de signaux entre les araignées. Prenons par exemple deux néphilas qui veulent copuler. Le mâle arrive et transmet à la femelle un message par la vibration. Nous savons que cette vibration a sur la toile une certaine fréquence. Et nous pouvons commencer à classer ces messages. Parce que c'est une autre vibration qui permet à l'araignée, quand elle a très faim, de vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la toile. Mais nous essayons aussi d'élargir les questions. Peut-être que les araignées n'ont pas toujours de but, que leurs actions ne sont pas aussi déterministes que la science ne l'imagine. Grâce aux toiles, on peut étendre la question. Peut-être que, à certains moments, les araignées aiment tout simplement jouer de la musique. Il y a des moments où deux jeunes chiens sont trop jeunes pour être intéressés sexuellement l'un par l'autre et aiment seulement jouer. Il y a beaucoup de discussions pour comprendre les mobiles de certaines actions. Et nous devons y réfléchir. Mais oui, il est possible que les araignées aiment l'art. Nous l'aimons aussi. Il n'y a pas forcément de finalité à un certain type de mouvement ou de vibration. Il faut élargir le spectre quand se pose à nous la question du sens. Est-ce que deux araignées mâles peuvent flirter ? La science considère qu'il n'y a de relation sexuelle qu'entre araignées mâles et femelles. Il n'y a pas d'araignées queer. C'est toutes ces questions que nous voulons poser à une communauté qui est souvent assez rigide sur ces sujets.
En effet, je comprends mieux l'excitation qu'il y a à imaginer qu'on puisse capter, enregistrer et classer les vibrations des toiles. Et ainsi donc comprendre mieux ce qui régit les relations des araignées entre elles.
Le code a changé. Xavier Delaporte.
Les chercheurs qui ont fait ce travail avec d'autres types de communication animale sont arrivés à des résultats qu'il faut dire extraordinaires, quoi. J'ai lu récemment une étude sur le langage des poules, réalisée par une chercheuse néo-zélandaise. Alors, elle racontait que les poules pouvaient produire une trentaine de sons différents qui concernent différents objets, le territoire, le nid, les petits, l'accouplement, la nourriture, la satisfaction, la peur, etc. Elle racontait aussi que les cris d'alarme, par exemple, étaient différents selon que le danger vient d'en haut, du ciel, des cris courts, de faible intensité et à bas débit quand le prédateur est un rapace, par exemple, ou que le danger vienne du sol. Alors là, c'est des cris puissants, répétés quand le prédateur est un chat ou un renard, parce que bah, évidemment, ces cris préviennent les autres, mais ils peuvent aussi faire peur au prédateur. Quant aux coqs, ils crient plus fort et plus souvent quand ils sont en présence de poules et de poussins qu'ils connaissent. C'est quand même incroyable. Et l'article racontait aussi comment les chercheurs savent produire certains types de réactions chez les poules en diffusant certains cris enregistrés. Par exemple, un cri d'alarme désignant un danger venu du ciel va provoquer une course des poules qui vont se mettre à couvert. Évidemment, là je comprends l'intérêt de ces outils pour la connaissance des araignées, voire de la manière dont elles communiquent entre elles. Mais bon, l'internet interespèces, ça pose une question un peu différente, celle de la communication entre les espèces. Et là, je ne comprends toujours pas le lien. Pourquoi Thomas s'est-il retrouvé dans cette affaire d'Internet interespèce? Est-ce qu'il va finir par me le dire?
Quand on a publié des articles dans des revues scientifiques importantes, les gens de l'interespèce nous ont appelés pour nous demander si cela nous disait de participer à la conférence. L'intérêt que j'y ai vu, c'est une occasion d'ouvrir un peu la recherche scientifique et la distribution de l'argent. Je ne dis pas que ces gens sont étroits d'esprit, mais il y a des manières plus ouvertes de concevoir les interactions. Dans le cadre de cette conférence, il existe un prix. Le prix Jeremy Kohler, qui prévoit de donner $1 million à la première équipe scientifique qui établira une communication, je le dis entre guillemets, avec les non-humains. Ce que ces gens ont en tête, c'est une sorte de Google Traduction. Quelque chose qui a à voir avec du big data et de l'intelligence artificielle, qui pourrait traduire les langages animaux et nous permettre de communiquer avec eux.
C'est quand même marrant. Quand on en arrive enfin au cœur du sujet, Thomas balance, mais l'air de rien, comme ça, que ces gens ne sont pas étroits d'esprit, certes, mais enfin, bon, quand même. Je suis allé écouter le discours de Jeremy Kohler, qui ouvre la dernière session de l'Internet interespèce, celle à laquelle a participé Thomas, et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ce type, Jeremy Kohler, c'est pas un scientifique. C'est un Britannique qui a fait fortune dans la finance, qui se vit comme un grand défenseur de la cause animale, et qui a décidé de rejoindre le projet de l'Internet interespèce, et surtout de le doter d'un prix auquel il donne humblement son nom. L'idée de ce prix, c'est de récompenser une équipe qui fait avancer la communication entre les espèces. Alors, j'écoute le discours de Jeremy Kohler.
You might laugh, but I'm inspired by Dr. Doolittle and believe the world would be a much better and kinder place if we could chat to a cow. An analogy I used was that of the Rosetta Stone and how it unlocked the hieroglyphics and therefore the secrets of ancient Egypt.
Le mec, donc, commence par expliquer qu'il est inspiré par le docteur Doolittle, le personnage de livre et de film qui a le don de parler avec les animaux. Et il dit que le monde serait meilleur si on pouvait discuter avec les vaches. Ensuite, il fait une analogie avec la pierre de Rosette, donc la traduction par Champollion qui a permis la lecture des hiéroglyphes, en expliquant qu'il rêve qu'on trouve l'algorithme qui permettra de débloquer le mystère de la communication avec les animaux. Je comprends un peu que Thomas trouve cette ambition technobéate, pour ne pas dire carrément coconne. En même temps, je lui rétorque à Thomas, mais il s'attendait à quoi? L'Internet interespèce, c'est un truc de technophile. Ces gens réagissent en personne qui voient dans la technologie la manière de faire avancer le monde.
Oui. Mais je crois qu'on est entré dans un cercle vicieux. La technologie est un monde dominé par un tout petit nombre de personnes qui pensent toutes la même chose. Un monde biaisé par des schémas de pensée dont il est très difficile de sortir. Faut-il qu'un traducteur automatique de la communication interespèce se retrouve dans les mains d'une élite qui néglige déjà la majorité des humains qui habitent sur cette planète? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et je ne veux pas participer à ça.
J'ai regardé ce que Thomas appelle ça, c'est-à-dire les projets sélectionnés par l'équipe de l'Internet interespèce et dont je comprends qu'ils concourent au prix Kohler. Il y a par exemple une équipe japonaise qui crée des sortes d'aquariums virtuels. Alors ce sont d'énormes écrans sur lesquels sont projetés des modélisations d'animaux, des baleines, dauphins, des orques. Ces animaux virtuels sont absolument magnifiques. On peut les approcher, on peut les toucher presque. Ils peuvent réagir aux mouvements humains, ce qui provoque des réactions d'ailleurs assez étonnantes chez les spectateurs. Il y a le projet de Peter Bermont, un jeune type qui développe un algorithme capable de séparer les voix de différents animaux dans des enregistrements où ils sont plusieurs à vocaliser en même temps.
Here's one dog. And the other. So as you can see, the model has learned to separate the mixture, the individuals contained in the mixture.
L'idée, là, c'est d'utiliser des programmes qui savent faire ça avec la voix humaine ou avec de la musique créée par les hommes et de les appliquer aux sons produits par les animaux. Mais évidemment, ça pose plein de problèmes techniques hyper compliqués. Le fait que les fréquences ne sont pas les mêmes que celles audibles par l'oreille humaine. Ou que les sets de données sont souvent réduits et de mauvaise qualité, etc. Dans son intervention, Peter Bermant détaille son algo à base de réseaux de neurones. J'ai rien pigé. Mais c'est vrai que si ça ne semblait pas complètement dingue avec les chiens, c'est déjà plus impressionnant avec les dauphins.
And here's one source. And then another source. So as you can see and hear, the model is both separating the mixture into predictions or reconstructions of the individual sources, and it's also learning to denoise.
On voit bien comment des outils comme ça peuvent faire avancer les choses. En même temps, on est assez loin de l'algo qui permettra de déchiffrer la pierre de Rosette de la communication interespèce. D'ailleurs, autant que je sache, le prix Kohler n'a pas encore été décerné. Alors, puisque Thomas semblait assez sceptique à l'égard des ambitions qui sont sous-jacentes à l'Internet interespèce, je lui demande si, pendant la conférence, un projet l'a particulièrement marqué, un projet lui a plu. Et là, il se met à me parler des travaux d'une jeune chercheuse sud-africaine qui s'appelle Jessica van der Waal et qui travaille avec des communautés africaines qui ont développé une relation très particulière avec certains oiseaux.
Ces gens sont capables de communiquer avec les oiseaux. Ils leur murmurent des chants, les oiseaux les comprennent. Les oiseaux comprennent que les humains communiquent avec eux et ils les guident vers les nids que les abeilles sauvages ont construits dans les arbres. Sans ça, les humains n'auraient aucun moyen de trouver ces nids. Alors, les humains coupent l'arbre, ouvrent le nid, prennent le miel et laissent la cire aux oiseaux. Cette communication est tout à fait établie, les uns et les autres s'alliant pour le bénéfice mutuel des deux espèces. Il s'agit là, je pense, d'un cas magnifique de relation symbiotique. Et donc, pendant la conférence, j'ai dit « Mais vous avez votre vainqueur. Ces chasseurs de miel et ces oiseaux se parlent depuis des millénaires. Ils ont une langue commune. » Les humains et les oiseaux se répondent les uns les autres, ils se parlent. Ils ont dit « Ok Thomas, donc on désigne comme vainqueur la communauté scientifique qui les étudie. » J'ai dit « Non, les vainqueurs, ce sont les types qui parlent vraiment aux oiseaux. C'est eux aussi qu'on néglige. La sixième extinction de masse ne concerne pas seulement les animaux, mais aussi les humains qui sont les plus proches d'eux et qui savent communiquer avec eux. » Il y a eu comme un silence.
C'est sûr qu'ils ont dû halluciner, les cocos de la tech, quand Thomas leur a expliqué ça. Sa vision super low-tech de la communication interespèce, ça a dû les remuer. Eux qui, depuis 10 ans, pensent que ça passera par les machines, par les algos. Alors, est-ce qu'il a eu gain de cause ?
Je pense que Peter Gabriel et les autres se montrent heureusement plus sensibles et qu'ils vont ouvrir ce prix à des communautés qui, depuis des millénaires, communiquent avec les animaux de manière très sensible.
Donc, c'est ça l'histoire. En fait, Thomas a essayé de hacker l'Internet interespèces. Il leur a expliqué que leur trip techno, là, il était sympa, mais qu'avant de trouver LA machine qui allait faire de nous des Dr. Dolittle, on pouvait aider les gens qui savaient déjà communiquer avec les animaux à continuer de le faire. Et vraisemblablement, ils ont compris, enfin en tout cas certains d'entre eux.
Le code a changé.
Mais bon, j'en ai pas complètement fini avec Thomas. Parce que pour une fois que j'ai sous la main un spécialiste des araignées, je vais pouvoir éprouver deux théories, un peu plus générales, sur les rapports entre les technos et les animaux. La première théorie, elle tient aux mots et à ce qu'ils évoquent. En anglais, on sait, le mot « web » désigne à la fois cette partie de l'Internet sur laquelle on navigue et la toile de l'araignée. Et je suis certain qu'il y a un lien intellectuel ou poétique, entre les deux.
Oui. Tout est en lien avec tout, mais rien n'est connecté. Vous savez, Jacob von Kuxel, le grand biologiste allemand, a décrit comment la géométrie de certaines toiles évolue en relation avec les parcours de vol des moustiques. C'est assez étrange parce qu'il y a une sorte de cécité réciproque. Les araignées qui tissent ces toiles ont une vision très pauvre. Elles distinguent à peine le jour de la nuit. Mais elles sont capables de construire ces formes géométriques très complexes, qu'elles ne voient pas donc, mais qu'elles ressentent à travers la tension et les vibrations. Les moustiques non plus ne voient pas la toile. Néanmoins, les araignées parviennent à tisser les fils à une proximité telle les uns des autres que les moustiques, quand ils traversent la toile, sont pris au piège. Les araignées et les moustiques vivent dans des mondes perceptifs très différents, et pourtant on pourrait dire qu'ils sont reliés les uns aux autres. Je pense que ce World Wide Web, qui n'est qu'une illusion parce qu'il n'a pas du tout réalisé les potentialités qu'on lui trouvait au début, je pense qu'il a quelque chose à voir avec cette cécité réciproque et qu'il aurait pu évoluer différemment. Mais je ne sais pas. Je suis de plus en plus critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle et du monopole que certaines communautés s'arrogent sur les autres.
Bon. Je suis pas sûr de très bien comprendre le coût de la cécité réciproque appliquée au web. Qu'est-ce que Thomas veut dire par là? Alors, il veut peut-être dire que nous sommes chacun aussi différents que le sont les araignées et les moustiques. Et que nous évoluons tous dans des mondes perceptifs très différents les uns des autres. Et que, malgré tout, la toile que nous avons fabriquée, hein, le World Wide Web, est ce qui nous relie sans que nous le voyons. Que le web est une construction qui évolue pour nous relier, sans pour autant que nous soyons pleinement en lien les uns avec les autres. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Et ce serait intéressant, parce que ça ferait du web quelque chose qui nous rend sensibles, tout en étant malgré tout privé d'un sens. Mais dans ce cas, l'image est un peu inquiétante. Parce que la toile qui relie les araignées et les moustiques, elle est quand même là pour que les uns piègent les autres, pour que les uns bouffent les autres. Peut-être que c'est ce que Thomas veut dire quand il explique que le web aurait pu être différent et qu'il est de plus en plus critique vis-à-vis de ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il regrette que le web soit devenu une toile d'araignée, justement. Et là, je comprends aussi les réserves qu'il peut avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle et du fait que ce soit une technologie réservée à une élite. Mais bon, en indécrottable optimiste, je dis à Thomas qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, enfin, j'ai pas trouvé l'expression exacte en anglais, mais il a compris, et que, indépendamment des dérives qu'on lui connaît, la technologie est encore porteuse d'espoir, et qu'il est peut-être possible de trouver des outils technologiques qui nous permettraient d'entrer en communication avec d'autres vivants, les araignées en particulier. Donc je lui dis, enfin, Thomas, j'espère que vous rêvez à un outil technologique, un seul, qui vous permettrait de faire enfin ce que vous voulez faire.
Je pourrais tomber très facilement dans le piège qui consiste à dire que la technologie est la solution à tout. Tout ça parce que je fréquente des scientifiques et que la technologie est très utile, c'est certain. Mais pensez à la manière dont la communication et la technologie ont évolué ces dernières années. Certes, elles nous ont permis, par exemple, d'entrer en relation avec des gens qui, de par le monde, sont vraiment en communication avec des araignées. Mais comment est-il possible que ces outils ne nous aient pas permis d'entendre George Floyd dire 20 fois je ne peux pas respirer avant de mourir. Est-ce que nous avons besoin de Google Trad pour que Black Lives Matter nous parle? Mais il existe déjà, il nous parle. Beaucoup d'animaux nous parlent, beaucoup d'humains nous parlent déjà. Avons-nous besoin de plus de technologie? Je ne sais pas.
J'aime beaucoup cette idée que les animaux nous parlent déjà et que nous n'avons sans doute pas besoin d'outils technologiques supplémentaires pour les entendre, mais qu'il faut juste les écouter. Tout comme nous pourrions aussi écouter d'autres humains qui nous parlent et que nous n'entendons pas. Alors, ce que dit Thomas entre en écho avec la deuxième théorie que je veux lui soumettre. Une théorie que j'ai sur le rapport entre le monde animal et les technologies. Je me demande si, malgré tout, la technologie ne nous permet pas de mieux écouter les animaux, mais par une voie assez inattendue. Je pense à la manière dont les gens documentent la vie animale dans les réseaux sociaux. C'est surtout la vie des animaux domestiques, bien sûr, on voit beaucoup de chiens imiter par exemple les positions de yoga de leur maître, mais c'est aussi celle des animaux sauvages dont le comportement sont captés un peu par hasard par quelqu'un qui passait là et a filmé. Je pense par exemple à une vidéo magnifique où un troupeau d'éléphants traverse une route et où on voit très bien qu'une femelle se positionne en avance en travers de la route pour éloigner les voitures et protéger le passage des petits. Bon, malheureusement, on entend plus les pans que l'éléphante, mais c'est très impressionnant à voir. Et cette autre vidéo, par exemple.
Nous sommes dans un zoo près de Chicago. Un enfant de 3 ans a fait une chute de 6 mètres dans un enclos. Il gît, inconscient. Autour de lui, des gorilles qui pèsent jusqu'à 180 kilos.
À l'aide !
Mais une femelle ramasse l'enfant et le berce dans ses bras comme si c'était le sien.
Elle le tient !
Elle pose ensuite délicatement le garçon devant la porte du gardien du zoo. C'est un geste émouvant.
Il y a ces deux vidéos très spectaculaires, et d'ailleurs sujettes à des interprétations souvent un peu simplistes, hein, mais il y en a des milliers d'autres. Et sans parler d'outils beaucoup plus spécifiques, comme par exemple les caméras infrarouges ou les drones qui permettent de capter des comportements animaux dans des endroits et à des moments où ils ne sont pas sous le regard des hommes. Le philosophe Baptiste Morisot me racontait un jour comment les caméras à vision nocturne, par exemple, avaient permis d'observer que certains chiens patous, qui donc sont censés protéger la journée les troupeaux contre les loups, pouvaient, la nuit, quand les humains dormaient, quand les troupeaux étaient en sécurité, sympathiser avec les loups, jouer avec les loups, se draguer, etc. C'est quand même très intéressant de pouvoir observer ça. Alors je pense que toutes ces vidéos, volontaires ou pas, professionnelles ou pas, enrichissent énormément, non seulement notre rapport aux animaux, mais aussi notre connaissance des animaux. Et ça m'a fait penser à des articles que j'avais lus sur l'éthologie, la science du comportement animal. J'avais lu que pendant longtemps, les éthologues ne retenaient pour leurs publications scientifiques que des comportements qu'ils voyaient se répéter. Le reste, ce qu'ils ne voyaient qu'une fois ou qu'ils ne voyaient qu'un seul individu faire, ils le classaient dans une catégorie appelée anecdote et qu'en général, ils ne partageaient pas. Tout a changé quand notre regard sur les animaux a changé et que nous avons commencé à prendre en considération l'individualité animale et le fait aussi qu'il pouvait y avoir invention de comportement dans les groupes animaux. Et ce sont les éthologues japonais qui ont fait beaucoup évoluer les choses avec leurs travaux sur des groupes de singes qui avaient été déplacés au bord de la mer et qu'ils ont pu observer prendre possession de leur nouvel habitat. Ils ont vu par exemple comment les singes s'étaient mis à tremper des patates douces dans la mer avant de les manger, les trouvant sans doute plus savoureuses une fois salées. Et ils ont pu observer que c'était de jeunes singes qui avaient fait cette découverte, que les femelles s'y étaient mises et que les mâles avaient été un peu plus longs à en prendre l'habitude, comme toujours. Ils se sont rendus compte qu'il y avait, chez les animaux, aussi des innovations, qu'elles se transmettaient, bref, qu'il y avait une culture animale et qu'elle passe par des individus. Alors, ce type de travaux a participé à bouleverser la manière de considérer le monde animal et ils ont eu un effet épistémologique. Les éthologues se sont mis à regarder d'un autre œil les anecdotes qu'ils relevaient dans leurs observations et ils se sont mis à les partager. À voir que ces anecdotes n'étaient pas aussi anecdotiques que ça. Et une part du bouleversement auquel nous assistons dans notre connaissance des animaux et notre rapport aux animaux découle de cette révolution épistémologique. Et là donc, j'en arrive à ma théorie. La documentation du monde animal dans les réseaux sociaux fournit un nombre considérable d'anecdotes. Des choses qu'auparavant les gens racontaient, mais qu'on ne voyait pas, et donc qu'on ne croyait pas vraiment. Ah, vous savez, mon chien, quand je fais cuire un osso buco, il fait un mouvement très particulier avec sa queue qu'il ne fait pour aucun autre plat. Bon, avant on répondait, ah ouais, super. Aujourd'hui, on regarde la vidéo et on hallucine. Finalement, je me demande si l'internet interespèces, il n'est pas déjà là. Pas dans le rêve d'un algo qui craque la pierre de rosette de la communication interespèces, hein. Mais dans le fait que notre internet est bourré de chats, bourré de chiens, bourré d'oiseaux, d'écureuils, de milliers d'autres animaux dont on documente les comportements et que si nous savons les observer, devrait nous poser des questions. Et donc je transmets à Thomas ma théorie un peu tremblante.
Non, absolument.
Et j'ai aussi travaillé là-dessus et j'ai proposé un outil qui va dans le sens de cette communication interspéciste. Il s'agit d'une application qui permet, quand vous observez un comportement animal qui pourrait être corrélé à un phénomène plus large, de le poster. Le point de départ, c'est ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est en 2004. Les gens qui avaient des téléphones portables connectés au web et à toutes les stations météo du monde n'ont rien su du tsunami qui s'était déclenché au milieu de l'océan. Et quand la vague est arrivée, ils sont morts. Mais il y avait d'autres gens qui n'avaient pas de smartphone, qui n'avaient pas Internet. Mais ils connaissaient le comportement des fourmis. Et les fourmis ont senti que le tsunami arrivait. Et elles ont commencé à se réfugier dans les montagnes. Ces humains se sont dit « Oh mon Dieu, les fourmis ont senti quelque chose. Quelque chose se passe, suivons les fourmis. » Et quand la vague est arrivée, ils ne sont pas morts. Comment appeler cette technologie ? Juste, regarde autour de toi. Est-ce qu'on a besoin de parler de technologie avec ces fourmis et ces oiseaux qui nous disent tant de choses ? Ils ressentent le monde de millions d'autres façons que nous. Et donc, ils peuvent nous donner des idées pour que nous vivions ensemble dans une autre harmonie ou d'autres rythmes. Alors que les outils technologiques dont on parle réduisent les perspectives plutôt que de les ouvrir, non ?
Je crois que la position de Thomas Saraceno me plaît beaucoup. Le type passe son temps à créer des machines super sophistiquées pour augmenter sa connaissance des araignées, et en même temps, il est très réservé quant à l'idée qu'un jour, un algo nous livrera le secret de la communication avec les animaux. Et là où Thomas est cohérent, c'est que les outils qu'il crée, il les rend disponibles en open source, pour que chacun, de par le monde, puisse les construire et les améliorer. Et en même temps, il nous invite à commencer par regarder. D'ailleurs, quand on y réfléchit, ces outils qu'il construit, au fond, c'est ça. Ce sont des machines et des programmes qui servent à mieux regarder, à mieux entendre. Mais ils ne comprendront jamais rien à notre place. Merci à Thomas Saraceno pour cette discussion. À la prise de son, c'était Laurent Baudouin. Au mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Doublage, Fanny Bohuon. Et à la réalisation, Fanny Bohuon et Hélène Bizio. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.